Bonsoir. Une délégation de la CPI séjourne au Rwanda pour obtenir le transfert de Bosco Ntaganda à la haie aux Pays-Bas. Clôture mardi dernier à Kananga, au Kasaï occidental, de la troisième conférence des gouverneurs autour du thème « La cohésion nationale dans l'unité ». À l'issue de ces assises, la conférence a recommandé notamment l'intensification du rythme de la mise en œuvre de la décentralisation. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Dans cette émission, nous avons Jean-Marie Nkambwa, il est directeur des publications du journal L'Avenir, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Jean-Marie Nkambwa.
Bonsoir.
Eliezer Tambwe, il est journaliste à RLTV. Bonsoir Eliezer Tambwe.
Bonsoir Guimaté.
Et Dimanche Kamate, journaliste à la radio communautaire Moto, émettant depuis Wicha au Nord Kivu. Bonsoir Dimanche Kamate Katereka.
Bonsoir estimé confrère Guimaté Tsongo.
Bosco Ntaganda s'est réfugié à l'ambassade de l'Amérique au Rwanda. Le mécanisme de la mise en place de la décentralisation doit être accéléré selon la conférence des gouverneurs tenue à Kananga. C'est parmi les informations qui ont défrayé la chronique cette semaine. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kéline Couté pour savoir comment la presse a analysé ces différentes informations.
Bonsoir. Le grand sujet qui a dominé l'actualité toute cette semaine est la réédition lundi dernier de Bosco Ntaganda auprès de l'ambassade des États-Unis à Kigali, au Rwanda. À ce sujet, titre la référence plus, saluant la réédition de Bosco Ntaganda, la CPI exige son transfert immédiat. Ce week-end, Bosco Ntaganda attendu à la haie, titre le phare, ce seigneur des guerres où l'ont passé des combattants de l'armée rwandaise, de chefs militaires de l'UPC, du CNDP et du M23, des vrais, sauf imprévus, se trouvait ce week-end à la haie dans la salle qui lui a été aménagée par le service pénitentiaire de la CPI en attendant l'examen approfondi de son dossier et l'ouverture de son procès. La prospérité indique par ailleurs CPI Kagame lâche Bosco Ntaganda. Réservé au départ, le président rwandais s'est finalement prononcé sur le transfert de Bosco Ntaganda à la haie. La presse parle également de l'ouverture lundi dernier de la troisième session de la conférence des gouverneurs des provinces à Kananga au Kasaï occidental. L'Avenir annonce à sa une, troisième conférence des gouverneurs à Kananga, la cohésion dans l'unité, la vitesse de croisière engagée. L'agence congolaise de presse fait savoir de son côté que la troisième conférence de gouverneurs a eu pour thème la cohésion nationale dans l'unité. Ce thème qui répond aux besoins de la cohésion nationale telle que voulue par le président de la République va également réaffirmer la détermination du gouvernement central et des provinces d'aller jusqu'au bout du processus de décentralisation et celui de la démocratisation pour le besoin de la population congolaise. Et d'après Forum des As, Assemblée des exécutifs provinciaux à Kananga, la fin des gouverneurs Kuluna. Autres sujets qui ont fait l'actualité pendant la semaine, il y a notamment la révocation du gouverneur de la province de l'Équateur, Jean-Claude Baïndé, par décret présidentiel, et la Journée internationale de l'eau célébrée chaque 22 mars de chaque année et qui a pour thème cette année la coopération dans le domaine de l'eau.
Merci Kéline Couté. Un petit commentaire. Jean-Marie Nkambwa, je rappelle que vous êtes directeur des publications du journal L'Avenir, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est la journée mondiale de l'eau qui est célébrée aujourd'hui. Et selon la représentante de l'UNICEF en République démocratique du Congo, la moitié de la population congolaise est exposée au choléra et à certaines maladies par manque d'eau potable.
Confrère, c'est vraiment un paradoxe que je ne parviens pas à comprendre, dans la mesure où, dans le secteur de l'eau et de l'électricité, il y a eu beaucoup d'investissements de la Banque mondiale, aussi d'autres partenaires de la RDC. Alors, comment expliquer que jusqu'à là, on ne parvient pas à donner de l'eau à toute la population congolaise? Ça ne fait que m'étonner. Je me dis peut-être qu'il y a un problème de leadership. Il faut un leadership responsable au niveau des sociétés devant servir la population. S'il n'y a pas un leadership, s'il n'y a pas effectivement une prise de responsabilité, s'il n'y a pas une prise de risque, si on ne parvient pas à connaître ce que l'on doit faire, il sera difficile d'améliorer les conditions de vie de la population. Mais si nous avons de tels leaders, d'abord au niveau de nos sociétés, je pense que la situation pourra s'améliorer. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas un leadership éclairé d'abord au niveau de nos sociétés, il serait vraiment difficile que la situation puisse s'améliorer. Et puis nous sommes dans un contexte où, quand il y a par exemple coupure d'eau dans un quartier comme Bandal ou bien comme comme Lemba. Jamais les autorités ne passent à la télé ou bien à la radio pour vous dire, chers amis, voilà, il y a tel problème. Et c'est subitement comme ça que vous constatez qu'il y a coupure d'eau et de l'électricité.
Et donc, il y a un déficit de communication de la part de ceux qui gèrent ce secteur.
Bien sûr, en dehors du leadership que je renforce, il y a aussi un problème de manque de communication.
Merci. Eliezer Tamboué, je rappelle que vous êtes journaliste à RLTV. Et comment peut-on comprendre ces phénomènes dans un pays comme celui-ci, qui a l'un des réseaux hydrauliques les plus importants de la Terre, et on apprend que la moitié de la population n'accède pas à l'eau potable?
Oui, merci Guy. Je crois que Jean-Marie venait de le dire. C'est une question de leadership, tel qu'il a dit. Là, moi, je suis en train de voir ce qu'ils nomment au sein des entreprises publiques. Parce que, tellement que dans notre pays, tout est politisé, on ne sait qui mettre où, on nomme les gens comme ça en fonction des appartenances politiques et des coalitions politiques. C'est comme ça que on ne parvient même pas à sanctionner. On attendait voir ceux qui nomment sanctionner publiquement quelqu'un pour avoir privé de l'eau, parce que l'eau c'est la vie. Aller dans des quartiers comme Pigeon, nous sommes en pleine ville de Kinshasa. Mbinza à Pigeon, aller à Lupen, pour avoir de l'eau c'est tout un problème. Jusqu'à aujourd'hui, les gens doivent chercher de l'eau des sources, de l'eau non traitée. Et par contre, les autorités qui se mettent à nommer n'importe qui à n'importe quel poste, dit vous allez trouver qu'ils viennent s'approvisionner comme ils ont des véhicules, ils viennent s'approvisionner ici en ville. Je trouve que c'est vraiment déplorable, et j'adhère à l'idée de Jean-Marie qui vient de dire que c'est une question de leadership. Celui qui nomme, qui n'a pas les soucis, alors que la politique est mise en place pour le bien-être de la population. Si la population ne se retrouve pas dans la gestion, je me demande pourquoi est-ce qu'on peut être là.
Donc le leadership à tous les niveaux, donc un leadership collectif.
Oui, un leadership collectif, et surtout j'insiste sur la personne qui a le droit, l'autorité de nommer.
Merci. Eliezer, je rappelle que vous êtes journaliste à RLTV, Radio Lisanga Télévision, qui n'émet plus depuis plusieurs mois. Et on voudrait savoir où en est-on avec les démarches visant à rétablir le signal de votre média.
Nous sommes ensuite, Guy Maté, parce que on nous a fait tellement marcher. D'abord, c'était qu'on pouvait...
Qui vous a fait marcher?
Le CESAC qui nous a fait marcher. Et pour le moment, c'est le CESAC. Je peux parler de CESAC. Pourquoi? Parce que nous avons eu à rencontrer le ministre de la Communication Média. C'est lui qui a pris l'arrêté pour suspendre l'émission de la RLTV. Après entretien, il va nous mettre à la disposition du CESAC parce que c'est un arrêté signé sans durée. Depuis quand une décision administrative, on prend comme ça sans durée, on suspend que les gens faisaient l'apologie d'un 23. Dans ces documents-là, on n'a pas énuméré ni les noms de l'émission, ni les noms de l'invité qui a fait l'apologie d'un 23. C'est une décision qui a été prise comme ça, une décision politique. Après concertation, après autant de contacts avec le gouvernement, finalement, c'est le ministre qui nous met à la disposition du CESAC. On arrive là-bas, les CESAC commencent à nous faire marcher. Oh, attendez, on nous donne des rendez-vous. Attendez, déjà ce vendredi, vous allez faire ceci, vous allez signer, je ne sais pas, l'engagement. Nous avons dit, nous sommes prêts de signer l'engagement. Parce que la RLTV engage 52 personnes qui sont en chômage actuellement. Et d'ailleurs, Guy Maté, je dois vous informer que j'ai un journaliste, l'un de mes agents, qui est gravement malade à l'hôpital, Mamayem, qui doit peut-être, la jambe sera amputée d'ici là, parce qu'on ne travaille pas, on n'a pas de moyens. Nous avons compris que l'institution d'appui à la démocratie qu'on a mis pour réguler les médias, pour nous gérer, dommage que, veut se politiser.
Merci Dimanche Kamate Kasereka. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio communautaire Moto émettant depuis Wicha au nord Kivu. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces phénomènes constatés dans ces pays depuis plusieurs années et qui est décrié, qui est dénoncé? La moitié de la population congolaise n'accède pas à l'eau potable.
En tout cas, estimé confrère Guy Maté, je vous dis, c'est très regrettable lorsque la théorie de l'eau devient une théorie abstraite dans ces pays. Je me demande, vous êtes ministre, vous avez besoin de l'eau. Vous êtes gouverneur, vous avez besoin de l'eau. Vous êtes président de la République, vous avez besoin de l'eau. Mais comment expliquer que l'eau peut assister, n'est-ce pas, au manque d'eau, alors que nous avons toute une structure qui essaie de réfléchir à propos de la situation?
Dimanche.
Oui, allez.
Pouvez-vous nous faire l'état des lieux de la desserte en eau potable là où vous êtes, à Wicha, dans les territoires de Beni au nord Kivu?
Voilà, monsieur Guy Maté, je vous dis, ici c'est catastrophique. à part ce que nous appelons puits, je ne sais pas s'il faut parler d'autres choses à part ça, parce que les mamans parviennent à partir de longues distances, 10 kilomètres, 20 kilomètres à la recherche d'eau. Et je vous dis, ça c'est regrettable, c'est inacceptable. Alors que la population s'acquitte tous les jours de ses devoirs. Elle paie ses taxes, elle paie l'impôt, mais voilà la situation très affreuse dans laquelle les citoyens congolais sont en train de se retrouver, M. Guimat. Et donc, j'ai dit, aussi longtemps que nous n'aurons pas encore pris conscience de notre état, nous resterons toujours un peuple malade. Alors, tout Congolais doit juste donner une valeur ou bien une importance. Allô, M. Guy.
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Une délégation de la CPI séjourne au Rwanda pour obtenir les transferts de Bosco Ntaganda à la haie. Pour sa part, le président rwandais affirme que son pays apporterait tous les soutiens nécessaires au transfert de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. S'exprimant dans un communiqué publié hier jeudi, Paul Kagame indique que le transfert de ces rebelles congolais est prévu dans les prochains jours. Plus de détails avec Lievin Mwinga.
Nous allons travailler pour faire en sorte que tout ce dont l'ambassade américaine a besoin en lien avec l'affaire Bosco Ntaganda soit mis en œuvre aussi rapidement que possible, déclare Paul Kagame dans ce communiqué. La même volonté a été exprimée ce matin par son ministre de la Justice. Interrogé par notre consoeur RFI, Tarsis Karugarama, affirmait que Kigali était disposé à étudier toute demande pour faciliter le transfert du chef rebelle à la haie. Il a néanmoins précisé que le Rwanda ne répondra qu'à une demande d'aide qui serait formulée par les États-Unis dans la mesure où la demande ne viole pas la loi rwandaise. S'exprimant à ce sujet, hier mercredi, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines avait indiqué que des envoyés de la CPI étaient déjà en route vers Kigali pour récupérer Bosco Ntaganda. Johnny Carson avait assuré que les contacts avec Kigali avaient été ouverts dans cette affaire, même si les modalités pratiques du transport de Ntaganda de l'ambassade à l'aéroport restaient à définir. De son côté, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a précisé que Bosco Ntaganda serait transféré à la haie dans les deux jours.
Nous venons de l'apprendre, Bosco Ntaganda a quitté le Rwanda et est en route vers la haie aux Pays-Bas. Jean-Marie Kamboa, Bosco Ntaganda a quitté le Rwanda, il est en route vers les Pays-Bas. Mais il faut les reconnaître, lorsqu'il s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis au Rwanda et demandé qu'il soit transféré à la CPI, c'est une nouvelle qui a pris tout le monde au dépourvu. Apparemment, personne ne s'y attendait. Alors qu'on apprenait qu'il s'est rendu vers Masisi. Et après, on va apprendre qu'il est au Rwanda.
Bien sûr, Monsieur Guy Maté, il est vrai que le transfert de Monsieur Bosco Ntaganda est une occasion de joie pour tous les Congolais, notamment pour tous ceux qui ont souffert de ces actes, notamment pour toutes les femmes qui ont été violées, pour tous les enfants qui ont été enrôlés en Ituri à côté de Thomas Lubanga. Cela doit nécessairement constituer une raison de joie pour eux. Mais il faut aussi se poser la question de savoir cette reddition de Bosco Ntaganda, comme vous venez de le dire, a étonné tout le monde. Il est vrai qu'il ne pouvait pas aller à Masisi ou ailleurs parce qu'il y avait des menaces sérieuses pour qu'il soit tué ou bien pour qu'il soit arrêté. N'oublions pas que Monsieur Sultani Makenga, qu'on appelle dans son nom rwandais Monsieur Ruzangisa, connaissant très bien que les États-Unis avaient mis sur la table un montant important.
5 millions de dollars.
Voilà, il faisait tout son effort afin d'arrêter M. Bosco Ntaganda. Malheureusement, étant donné que M. Bosco Ntaganda était une carte rwandaise envoyée en RDC, et les Rwandais, sentant la menace qui devait arriver à M. Bosco, a tout fait pour qu'il vienne s'abriter. C'est comme un père qui a envoyé son enfant, va dans la passade du voisin, sème les désordres, moi je suis là, je suis autorité policière, je suis ceci, cela. Et au retour, Bosco Ntaganda a été accueilli, escorté, et puis conduit à l'ambassade des États-Unis. Un peu pour dire, pour que Kagame, pour lui de dire que non, voilà, moi j'ai pas de problème, mais si Bosco est entré, voilà, en entrant, il est allé se réfugier pendant que c'était un arrangement.
Donc c'était planifié.
C'était planifié parce que Bosco a toujours été envoyé.
Elisabeth Kamwe, on apprend que Bosco Ntaganda a quitté le Rwanda. Il est en route pour la haie.
Oui, c'est bien. Je n'ai pas la même vision ou la même interprétation des faits avec Jean-Marie. Parce que je vois très mal l'affaire Bosco Ntaganda. J'ai deux lectures sur les dossiers Ntaganda. La première lecture, comment Bosco Ntaganda est parti de là où il était. Il a traversé la frontière. Il est allé à une ambassade située à plus de 150 km de la frontière par laquelle il était entré, avec tous les services rwandais de renseignement sans qu'il ne soit vu. Par quelle magie? Deuxièmement, est-ce que Sultani Makenga cherchait à tout prix à livrer Bosco Ntaganda? J'ai dit tout de suite non. Parce que nous devons connaître la stratégie, le départ de Bosco Ntaganda là, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Congolais, je l'ai dit. Pourquoi j'ai dit ce n'est pas une bonne nouvelle? Surtout pour ceux qui dirigent actuellement. Parce que le Rwanda est passé à la vitesse supérieure. Vous allez entendre, c'est pas pour rien, des bonnes fois comme ça, Bosco va se livrer, le Rwanda est prêt. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, qui ne fait même pas mention de Laurent Kunda, qui est le premier à être arrêté là-bas, vous dit que non, le Rwanda va mettre tous les moyens pour les transferts. Non, on a mis des choses dans la bouche de Bosco Ntaganda. Vous allez me croire et vous allez vous rappeler cette émission que nous tournons aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on a mis dans la bouche de Ntaganda?
Les autorités congolaises seront pointées du doigt par Bosco Ntaganda.
Mais il faut rappeler que Ntaganda n'a pas évolué seulement dans l'armée congolaise, il est aussi passé par l'armée. Du Rwanda.
Je voulais y arriver parce que nous l'avons appris de la bouche de M. Paul Magidio, le chargé de la communication de la CPI. Ici, il a dit que on est en train, la CPI, la cour est en train de poursuivre le sujet rwandais qui est M. Bosco Ntaganda. Comme ici, on ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas, on prend tout le monde, on met comme ça dans l'armée congolaise et après, voilà, les masques sont en train de tomber.
Dimanche, Kamate Kasereka, Bosco Ntaganda, il est en train de partir là et aux Pays-Bas. Mais comment vous pouvez analyser l'attitude qu'il a affichée? Il s'est rendu à l'ambassade des États-Unis, il a affirmé qu'il était disposé à aller à la haie, alors qu'il y a environ une année, c'est les mêmes Bosco Ntaganda qui avaient repris les armes pour s'opposer à une démarche qui tendait à les livrer à la justice.
Oui, sans passer par quatre chemins, estimé confrère Guimaté, mais Bosco Ntaganda qui constitue l'objet même de notre discussion de ce soir, je me dis, il a été soutenu par le gouvernement. Et le gouvernement congolais était en train d'avancer les motifs de la pacification de l'est du pays. Mais voilà la personne qui devrait pacifier le pays, celle-ci est déjà transférée au niveau de la haie. Et vous trouvez que les choses sont en train d'aller très mal. Et moi j'ai dit, très mal en tout cas. Pourquoi? Bosco Ntaganda aujourd'hui, s'il est au niveau de la haie, mais il n'est pas le seul. Il y a des Sultani Makenga, il y a M. Jean-Marie Runiga, Rudangiza, il y a Hiller Kombi, il y a Morgan, il y a Kazarama, et consort. Est-ce qu'on peut croire qu'avec les transferts ou au parti du transfert de M. Bosco Ntaganda, la paix reviendra dans ce pays? Je me dis, ça c'est autre chose, et j'effectue une lecture en disant, attention, nous Congolais, nous devons être très prudents. Quelqu'un qui s'était déjà réfugié dans une forêt, aujourd'hui lui-même a accepté de se rendre, n'est-ce pas, à l'ambassade des États-Unis, et je pense croire que M. Bosco Ntaganda qui est transféré aujourd'hui à la haie, c'est encore un autre Bosco qui va monter au niveau de la haie là-bas, qui va encore présenter une autre lectique de fait, qui risque fort d'aller porter atteinte à la personnalité du peur congolais dans ce pays, M. Guy.
Dimanche, comment vous expliquez cette volte-face de Ntaganda qui a repris les armes pour s'opposer, n'est-ce pas, à une démarche qui tendait à les livrer à la justice, mais aujourd'hui il dépose les armes et il dit qu'il est disposé d'aller à la haie. Est-ce qu'il a été poussé, il a été amené à capituler? Comment vous pouvez expliquer ces comportements?
Voilà, M. Guy, je vais vous dire ceci, hein. Ce n'est pas une comédie qu'on ignore. Mais savons ce qui se passe dans ce pays. Il y a M. Bosco Ntaganda qui actuellement se retrouve à la haie. Il avait déjà refusé, il a créé même une tension pour qu'il ne soit pas capturé. Et voilà, aujourd'hui, il accepte, il sera lui-même à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ça signifie qu'il y aurait eu certaines raisons qui ont laissé en ce que celui-ci puisse se rendre là-bas. Et sans passer par quatre chemins, M. Guy, Bosco Ntaganda, il serait parmi les fils aimés de la communauté internationale. Ça n'engage que moi, M. Guy. Il serait parmi les fils aimés de la communauté internationale.
Pourquoi?
Avec son grand frère Laurent Kunda, si on peut le dire. M. Guy, Bosco Ntaganda, Laurent Kunda, Batoire, ils sont les deux fils aimés de la communauté internationale. Et donc, les Congolais doivent être très vigilants afin de ne pas tomber dans des bourbiers.
Dimanche?
Oui.
Vous voulez dire que le fait que Kunda ait quitté la RDC pour se réfugier au Rwanda, le fait que Bosco ait quitté la RDC pour se réfugier momentanément au Rwanda, cela s'inscrit dans un plan qui visait à protéger ces deux personnes?
Effectivement, mais c'est qui? Pourquoi se réfugier seulement au Rwanda, pas à l'Ouganda, à Tanzanie, en Angola? Mais pourquoi seulement le Rwanda? On sent pourquoi que le Rwanda s'est devenu alors humilié où tous les malfaiteurs du Congo peuvent aller se cacher et après leur affaire, la communauté internationale vient de dire bon, voilà, il est déjà là ainsi de suite pour replonger le pays dans la confusion.
Merci. Jean-Marie Cambois, le départ de Taganda n'est pas un fait du hasard, c'était planifié par ceux-là qui voudraient le protéger.
C'est ma thèse que je continue à soutenir. Bosco Ntaganda n'est pas allé au Rwanda volontairement. Ça, nous devons le comprendre une fois pour toutes. Il n'est pas allé au Rwanda volontairement. S'il s'est rendu au Rwanda volontairement, comme je venais de le dire, c'est un pion qu'on avait envoyé. Une fois qu'il a accompli sa mission, alors par après, le Rwanda a trouvé mieux de les retirer.
Et comment vous répondez à la thèse d'Eliezer qui pense que le fait de les transférer à la haie n'arrangerait pas les autorités congolaises?
Non, moi je ne peux pas me prononcer avant que la justice elle-même puisse le faire. Pour quelles raisons? Il faut d'abord savoir que si la Cour pénale internationale avait émis un mandat contre Bosco Ntaganda, c'est parce qu'elle avait un dossier très fourni. C'est au regard de ce dossier que Ntaganda sera jugé, mais aussi au regard d'autres faits qu'il aurait commis. Donc, pour dire que il n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas une façon de le protéger. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui accepte d'aller en justice pour se faire protéger. Non. Pour se faire protéger, il y a des mécanismes, il y a des moyens que l'on peut chercher. Mais si quelqu'un va en justice, soit c'est pour accuser quelqu'un, soit c'est pour se défendre des faits portés à sa charge. Et je voulais aussi ajouter un petit point par rapport à la paix, parce que l'ami venait de dire que Bosco Ntaganda a été utilisé pour la pacification. Non, dans la mesure où c'est le président de la République, au regard des besoins de la paix qui avait proposé qu'en ce moment, il n'était pas important de transférer Bosco Ntaganda à la haie. Il est vrai que lorsque les jours ont avancé, on s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix que l'on transfère Bosco Ntaganda à la haie. Donc, ce n'est pas Bosco Ntaganda qui devait contribuer à la pacification de la partie Est, mais c'était par rapport aux objectifs que les chefs d'État s'étaient fixés.
Et les certains mots, une certaine opinion affirme que cette affaire a été montée pour préparer l'opinion congolaise, l'opinion publique congolaise, à l'éventualité de la signature de l'accord entre le gouvernement congolais et Sultani Makenga.
Vous le dites, Guy Maté, d'abord, avant de répondre à la question, je dois essayer de réagister à un bon nombre de choses que les confrères venaient de dire.
Jean-Marie Cambois,
parce que quand il dit qu'on ne va pas en justice pour se protéger tout et tout, il n'a qu'à poser une question aux criminologues. Les criminels ont toujours cherché de bonnes relations avec ceux qui gèrent.
C'est-à-dire?
Ça, c'est-à-dire que c'est lui qui fait du mal, c'est une stratégie des criminels aussi. Mm-hmm. Aller vers ceux qui ont des décisions pour devenir les amis, bien sûr. Et après, c'est là. Quand aujourd'hui Jean-Marie veut corriger une histoire connue, les gouvernements faisaient le tapage ici. Au nom de la paix, on ne peut pas livrer Bosco Ntaganda. Au nom de la paix, c'est là que j'ai dit que c'est un simulacre, la défaite du Terminator.
Oui, et par rapport à ceux qui pensent que c'est une affaire qui a été montée pour préparer l'opinion publique congolaise à l'éventualité de la signature d'un accord entre le gouvernement congolais et Sultani Makenga.
Je l'ai dit depuis la fois passée ici. Mm-hmm. Nous connaissons la stratégie du RCD. RCD, en quittant la brousse, avait laissé Laurent Kunda. D'abord Mutebusi. C'est pourquoi je parlais du ministre de la Justice et du Rwanda qui est en train de se jouer des Congolais. Il y a Mutebusi qui s'est réfugié là-bas. Il y a Laurent Kunda qui s'est réfugié là-bas. En faisant mention de ça, il pouvait aussi faire mention de dossiers précédents, dire aux Congolais à quel niveau se trouve avec ces dossiers-là. L'RCD va laisser Mutebusi qui va être remplacé par Laurent Kunda. C'est Bosco qui vient les relever. Non, voilà, je vais les chasser. Ce que Makenga a fait aujourd'hui, c'est une stratégie connue. Donc, cette fameuse division entre les deux courants de M23, en tout cas, c'est un simulacre. C'est connu parce qu'il fallait faire quelque chose comme ça pour que l'un signe avec Kinshasa et que l'autre continue à semer l'insécurité à l'est du pays.
Merci. Dimanche Kamate, la reddition de Ntaganda prépare les lits à la période Sultani Makenga.
En tout cas, c'est sans passer par quatre chemins, mais si dit, au Congo, nous sommes déjà saisis de tout. Il est toujours dit que tout fait effet des contraires. Aujourd'hui, Bosco Ntaganda est envoyé à la haie, mais de l'autre côté, on risque fort d'assister à une résurgence d'une autre rébellion qui peut prendre des allures inquiétantes.
Merci. Jean-Marie Kambwa, quel est le scénario possible? Un accord entre Kinshasa et Makenga, ces derniers est réintégré dans les FRDC. Quelques mois plus tard, il reprend les armes prétextant que les accords n'ont pas été respectés. Et c'est le cycle qui reprend. Est-ce que ce scénario est possible?
Monsieur Guy Maté, je vais d'abord dire un mot par rapport à Bosco Ntaganda. Il est vrai que l'arrestation de Bosco Ntaganda va contribuer à la pacification de l'Est de la RDC, mais il ne faut pas dire que c'est l'unique solution, ce n'est pas l'unique carte que le gouvernement peut avoir à main ou que la communauté internationale peut avoir à main. Son arrestation ne va que contribuer à, n'est qu'une piste de solution parmi tant d'autres qui sont proposées.
Comment c'est-à-dire que le fait d'avoir été transféré à la haie pourrait décourager tous ceux-là qui...
Voilà. Voilà,
c'est
l'opinion qui est largement partagée au sein de la communauté internationale selon laquelle son arrestation va décourager tous ceux qui ont l'habitude de tuer facilement leurs confrères.
Les scénarios qu'on a évoqués ici, une signature entre le gouvernement congolais et Makenga, et celui-ci est réintégré dans les FRDC quelques mois plus tard, il reprend les armes prétextant que les accords n'ont pas été respectés. Est-ce que ce scénario est possible? Parce que là, on va revenir dans les cycles infernales. C'est possible ce scénario,
confrère,
à votre avis?
Confrère, moi je suis pour la signature de l'accord, mais je ne suis pas pour l'intégration des criminels de guerre au sein de nos forces armées congolaises. Pour la petite histoire, nous savons tous que M. Bosco Ntaganda a été un Rwandais de naissance qui a évolué au sein du même parti politique que M. Paul Kagame, qui est arrivé au Congo par les biais de l'aide accordée à Moïse Laurent-Désiré Kabila et qui s'est retrouvé à Nitouri. Plus tard, on signera des accords et sur injonction de la communauté internationale. Ils seront intégrés au sein de l'armée nationale. Par après, ils vont encore prendre des armes contre leur pays. Je ne pense pas que leur intégration soit effectivement une solution. Signer un accord, oui, je l'accepte, mais les intégrer au sein des FRDC, pas question, parce qu'on ne peut pas intégrer les criminels, ceux dont les avoirs sont gérés par la communauté internationale.
À votre avis, leur sort? Le sort de ces gens, Makenga et les autres?
Bon, leur sort, Makenga, c'est un Rwandais, il s'appelle M. Ruzangisa. Son sort, c'est de retourner chez lui. Et pour d'autres Congolais qui devront être identifiés, leur cas sera traité par rapport à leur identification.
Et les Etamboué, entre-temps, ceux qui subissent les conséquences de tous ces événements, c'est les populations congolaises qui semblent ne pas maîtriser les tenants aboutissants de cette guerre du Nord Kivu.
Voilà, Guy, vous l'avez dit, moi je crois que la responsabilité est sur les dos du chef de l'État. Étant donné que Dieu nous a fait grâce à cette période de nous donner un chef de l'État qui est du reste militaire, qui a été le commandant de la force terrestre de ces pays, qui connaît bien ces pays. Aujourd'hui, je comprends comment les confrères sont en train d'affirmer tout que ce sont les Rwandais. Et c'est le gouvernement qui nous a présenté ces gens-là, au nom de la paix, la pacification. Même quand les confrères veulent parler en termes de pacification, ça ne va rien changer. Parce que si ce n'était que ça, ça pouvait décourager autant. Le Congo, c'est le premier client de la Cour pénale internationale.
Ntaganda, Makenga et Kunda ont évolué dans le FRDC comme étant des Congolais.
Ils ont évolué comme étant les Congolais. Aujourd'hui, les masques sont tombés parce que nous avons suivi Paul Madidi, qui a bien dit qu'on est en train de poursuivre un sujet rwandais, le général...
Supposé rwandais.
Je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit. Sinon, moi, j'ai suivi que la Cour est en train de poursuivre un sujet rwandais. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons vu à Kisangani, les deux armées étrangères se sont battues sur les sols.
L'armée rwandaise et l'armée rwandaise.
Oui. Aujourd'hui, Makenga... Et Bosco Ntaganda qui se battent sur les sols congolais, que c'est les Congolais qui meurent. Moi, je crois que pour l'arrestation d'un chef militaire, un chef rebelle à l'est du pays pouvait décourager les autres. Avec l'arrestation de Thomas Lubanga, des autres, ça pouvait déjà changer quelque chose. C'est là que j'ai dit, les changements ne pourraient intervenir qu'avec une armée forte et compétitive. constitué des Congolais eux-mêmes. Avec l'intégration, je suis d'avis quand même avec Jean-Marie quand il a dit pas question d'intégrer ces gens-là. Parce qu'en intégrant, c'est toujours les Rwandais que nous intégrons dans l'armée congolaise. Comme conséquence, l'armée ne sera pas forte.
Leur sort,
moi je crois que le gouvernement de Kinshasa va faire ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire, avec le RCD, ils ont pris les armes, c'est devenu un parti politique. Un groupe de gens de Laurent Kunda sort les CNDP après concertation. Ça devient parti politique. Merci. Et aujourd'hui, ceux qui revendiquent les accords signés entre les CNDP et le gouvernement, l'M23, va bientôt devenir un parti politique. Merci. Je sais que le ministre de l'Intérieur va faire comme d'habitude et va créer un parti comme ça.
Merci. Dimanche Kamate, comment entrevoyez-vous l'avenir? Quelle solution vous proposez pour pacifier l'Est de la RDC?
En tout cas, monsieur Guimaté, j'ai certaines propositions à donner. D'abord au gouvernement, je vais demander en ce que le gouvernement puisse savoir qu'il ne peut pas diriger là où il n'y a pas de citoyens. Et donc, que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités et qu'il s'occupe de tout ce qui peut permettre le développement dans ce pays. Deux, je vais demander à tous les Congolais de prendre conscience qu'ils puissent s'approprier ce pays. Qu'ils ne puissent pas vivre dans ces pays comme s'ils étaient des étrangers. Parce qu'il y a même certains Congolais qui sont en train de vivre grâce à cette rébellion. Mais pourquoi tuer son frère? Pourquoi tuer sa soeur? Merci. Sa mère? Ainsi de suite. Je crois, nous Congolais, nous devons juste changer de mentalité. Ce n'est pas à travers une arme qu'on peut développer un pays. Ce n'est pas à travers le mensonge qu'on peut développer un pays. C'est pas
cette prise
de conscience. Le changement de mentalité, monsieur Guy.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Clôture mardi dernier à Kananga au Kasaï occidental de la troisième conférence des gouverneurs autour du thème « La cohésion nationale dans l'unité ». À l'issue de ces assises, la conférence a recommandé notamment l'intensification du rythme de la mise en œuvre de la décentralisation pour, je cite, « faire échec au plan séparatiste des forces du mal ». Fin de citation. Cette troisième conférence des gouverneurs a aussi recommandé au gouvernement l'examen des voies et moyens pour poursuivre les efforts des financements des campagnes agricoles en province, ainsi que la finalisation du projet de loi sur la Caisse nationale des péréquations. Le ministre Richard Mouyej-Manguez, rapporteur de cette conférence, dans ses propos recueillis par André Kambala Moujanaï.
La conférence s'est félicitée de l'exécution annoncée à partir du mois de mars courant de ses précédentes recommandations tenant à l'augmentation de l'enveloppe de la rétrocession des ressources aux provinces, tenant compte de la tendance à l'augmentation des recettes budgétaires propres. Il a été néanmoins recommandé aux provinces de faire le même effort dans la rétrocession des ressources dues aux entités territoriales décentralisées. S'agissant du processus de décentralisation en cours, la conférence a recommandé l'intensification du rythme de sa mise en œuvre en vue de faire échec au plan séparatiste de force du mal. À cet effet, le gouvernement a été appelé à prendre des mesures qui s'imposent afin de l'organisation des élections provinciales, urbaines et locales dans les meilleurs délais, l'amorce du processus de transfert des charges relevant des compétences des provinces à ces dernières concomitamment au transfert des ressources, l'application de la législation en matière de recouvrement des recettes relevant de la compétence des provinces. Elle a en outre recommandé la permutation des agents publics de l'État, cadres de commandement, au sein ou en dehors de leur province d'origine, de manière à réduire le clientélisme qui affaiblit leur rendement.
Jean-Marie Kamboa, je rappelle que vous êtes directeur des publications du journal L'Avenir, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. La conférence des gouverneurs recommande d'accélérer les mécanismes de la mise en place de la décentralisation en vue, je cite, de faire échec au plan séparatiste des forces du mal. Votre analyse.
Monsieur Guy, merci beaucoup pour la parole, mais à lire les comptes rendus, disons, à écouter les comptes rendus du ministre de l'Intérieur, je me suis un peu senti lésé, dans la mesure où c'est comme si les gouverneurs se sont retrouvés à Kananga, ne fût-ce que pour réfléchir par rapport à un comportement d'un individu. L'individu en question, c'était M. Tungu Akumanza. C'est comme si les gouverneurs se sont retrouvés à Kananga, ne fût-ce que pour réfléchir par rapport à ce que nous connaissons comme trouble au Katanga, ainsi qu'à l'est du pays. Et pourtant, la question de la décentralisation, il est vrai qu'elle méritait d'être épinglée, mais ne valait pas du tout la peine.
Pourquoi?
Parce que chez nous, quel est le problème? Si la décentralisation s'entend comme une faculté pour les administrations de prendre des décisions les concernant pour le développement de leur pays, oui, j'encourage. Et je me demande aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le gouverneur de la ville-province de Kinshasa de pouvoir, par exemple, réaménager les marchés centraux de Kinshasa, communément appelé Zando? Pourquoi ce marché doit toujours être dans une insalubrité pareille? Est-ce que c'est parce qu'on
c'est pourquoi on doit mettre l'accent sur la décentralisation, c'est-à-dire accorder à ces gouverneurs tous les pouvoirs qu'ils doivent détenir pour le permettre, n'est-ce pas, d'accomplir ce genre d'émission?
Non, mon cher, il ne s'agit pas d'accorder encore d'autres pouvoirs à ceux qu'on a déjà accordé au gouverneur.
C'est vrai que la Constitution reconnaît au gouvernement provincial certaines compétences, mais malheureusement, ces compétences ne sont jamais transférées. C'est pourquoi d'ailleurs, parmi les recommandations, on a demandé les transferts rapides des compétences qui sont reconnues au gouvernement provincial.
Mon cher, le problème, c'est d'abord d'exercer les compétences qu'elles ont toujours eues. Est-ce que pour curer les eaux qui jonchent les ronds-points de la SNCC à Lubumbashi, il faut une amplification de la décentralisation? Non. Est-ce que pour aménager le marché des Andes de Kinshasa, il faut une amplification de la décentralisation? J'ai dit non. Parce que le marché lui-même a des moyens pour se prendre en charge. Le marché lui-même a de quoi assurer sa salubrité. Et si on ne le fait pas, c'est que quelque part, on est incompétent.
Merci Eliezer Tamboué. Je rappelle que vous êtes journaliste à RLTV, Radio Lusanga Télévision. Parmi les recommandations, l'on demande qu'elles soient transférées rapidement aux provinces les compétences exclusives qui leur sont attribuées par la Constitution, à savoir l'éducation, la santé et l'agriculture. Notre ami Jean-Marie Kamboi vient de relever le fait que pour que un gouverneur puisse accomplir sa mission, il ne faudrait pas que l'on renforce la décentralisation. Votre point de vue.
Oui, Guy, je crois que d'abord, il faut faire une différence entre la décentralisation et le fédéralisme. Ce sont deux choses qu'il faut vraiment distinguer. Je reviens à la question. D'abord, bien sûr, c'est une conférence faite sur base d'une violation de la Constitution, parce que l'article 200 de la Constitution prévoit au moins deux fois l'an cette conférence. Alors qu'on parle de la troisième conférence des gouverneurs depuis 7 ans, c'est que dommage. Donc nous violons la Constitution chaque jour. En ce qui concerne les résolutions, j'ai bien suivi avec une attention soutenue. S'il n'y a pas la démagogie, donc les gouverneurs ont compris qu'il fallait s'opposer au régime en place actuel. Pourquoi j'ai dit ça? Ils vont parler de la justice, par exemple, qu'il faut activer le mécanisme de fonctionnement des tribunaux de paix en province, oui. Mais quand vous constatez, ça existe jusqu'à ce jour. On a trouvé que bon, c'est juste une fantaisie qu'on a placée là-bas.
Il faut les renforcer en prévision des prochaines élections.
Donc il faut renforcer la justice parce qu'on doit organiser les élections. Je me pose cette question-là. Est-ce que c'est de bonne foi que les gouverneurs peuvent souhaiter les élections provinciales actuellement? Pour quelle fin? Pour devenir qui? Parce que ce sont eux-mêmes qui vont devenir des chômeurs. Vous croyez que ces gouverneurs-là se mettent et ils disent, non, écoutez, organisez les élections pour que nous puissions partir. Je crois que Même quand on a donné le compte rendu par le ministre de l'Intérieur, ce qui m'a étonné, on a chanté ici sous le signe de la cohésion nationale, mais aucune phrase ayant trait à la cohésion nationale n'a été énumérée à la fin parmi les résolutions. On parle par contre de l'accélération du processus de décentralisation, bien sûr, qu'ils ont perdu l'homme fort du Katanga, Gabriel Tungu Akumanza. Mais ce qui est étonnant...
Pourquoi vous l'appelez l'homme fort?
Gabriel Tungu, mais si tu n'es pas d'accord avec Tungu, tu n'es pas au Katanga, ça c'est connu.
Bon, ça n'engage que vous, hein.
Merci, c'est pas grave, mais les téléspectateurs qui nous suivent savent et comprennent ce que j'ai dit. Tungu Akumanza, qui est bien sûr de la majorité présidentielle, qui n'est pas de l'opposition, fait peur à la majorité même où il fait partie. C'est ce qui est grave.
Et comment il fait peur à la majorité?
Il fait peur parce que quand c'est le confrère qui venait de dire que en voulant accélérer le processus de centralisation, c'est sur base d'une position d'un individu qui est Gabriel Kyungwa Kumwan.
Parce qu'il prône le fédéralisme.
Oui, tu ne veux pas cette découpage territorial. Moi, je crois que il y a aussi un élément important. On a parlé de l'agriculture, Guy. Tu n'as pas parlé de ça. L'agriculture qu'il fallait renforcer. Mais dans le budget national, l'agriculture, on a mis combien d'argent? À part la province de Bandung, où nous voyons Jean Kamisendo qui fait un effort. Au Katanga avec Moïse, dans les Kassai bien sûr avec Ngoï Kassangi. Le reste, qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Au lieu de faire quelque chose, et aussi là dans la conférence des gouverneurs, pourquoi on ne peut pas dire aux uns que suivez les modèles des autres, de ceux qui font quand même l'effort?
Merci. Dimanche, Kamate Kasereka, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio communautaire Moto, émettant depuis Wika au Nord Kivu. Il a été aussi décidé à l'issue de ces assises que l'allocation faite aux provinces passe de 12 milliards de francs congolais à 15 milliards. Et vous pensez qu'avec tout ce que ces provinces connaissent comme problème, 15 milliards, s'il faut les partager par 11 provinces, vous pensez que ça pourrait suffire pour permettre à ces provinces de réaliser leurs projets de développement?
Voilà, monsieur Guy, je vous dis qu'on cesse de tromper la population, qu'on cesse de distraire la population. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, l'excellence Julien Paluku Kaouga, il a été ici, il a initié d'ailleurs un dialogue social au niveau des chefs liés du territoire de Beni. Mais quand on dit les renforcements, par exemple, de l'agriculture, est-ce qu'il peut nous dire si la population en territoire de Beni continue encore à cultiver leurs champs? Avec les opérations réseau, est-ce que la population accède facilement à leurs champs, monsieur Guy? On cesse de tromper la population avec des histoires que moi, je considère ça comme un arbitre qui vient siffler un match alors qu'il n'a pas insifflé. Le gouverneur de province lui-même, celui de la province du Nord Kivu, lorsqu'il y a eu aussi des tensions au niveau des Goma, il s'est réfugié au niveau des Beni. Mais quand on parle de Beni, Beni c'est une ville où on ne voit presque rien de ce qui a été réalisé par le gouverneur. Je parle de Goïka ici, mais on ne voit presque rien qui a été réalisé par...
Donc la particularité avec le Nord Kivu, c'est les problèmes d'insécurité qui ne permettent pas aux paysans de faire leur champ, c'est ça?
En tout cas, monsieur Guy, effectivement, ce que vous venez de dire, c'est juste ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de cette conférence de gouverneurs, moi, je ne vois presque rien, étant donné que le contexte sécuritaire ne nous permet pas de comprendre tout ce que le gouverneur est allé faire au niveau du Canada. Et donc, je me réajoutais en disant ceci, si le gouverneur peut parler entre eux là-bas, est-ce qu'ils ne peuvent pas être à la base de tout ce que la population est en train de vivre pour malheur? S'ils n'ont pas encore changé eux-mêmes, à quoi bon présenter de bonnes théories qui ne seront jamais pratiquées, monsieur Guy?
Jean-Marie Kamboi, nulle part, on a évoqué la question de la retenue à la source des 40%.
Oui, nulle part, on en a parlé, mais avant de réagir à ce qui concerne les 40%, je voudrais d'abord dire un mot. D'abord, l'organisation de la conférence des maires est un fait important qu'il faut reconnaître, il faut saluer l'organisation de cette conférence dans la mesure où le chef de l'État demeure le garant des institutions. Et le chef de l'État a nommé, disons, ce n'est même pas lui qui a nommé les gouverneurs, mais les gouverneurs ont été élus chez eux. Et ces gouverneurs-là représentent le chef de l'État. Et ces gouverneurs-là doivent travailler pour le bien-être de leur population. Et s'ils ne travaillent pas par rapport à cet objectif, il est tout à fait normal que dans un cadre comme la conférence, que l'on puisse les inciter à pouvoir fournir des efforts.
Et la retenue à la source des 40%.
Par rapport à la retenue à la source des 40%, c'est la préoccupation qui a toujours été dans la tête du gouverneur du Katanga, dans la mesure où le gouvernement donne difficilement ce qu'il doit aux provinces en vue de leur développement. Maintenant, le problème est que le gouvernement peut donner, mais d'un autre côté, qu'on nous dise aussi qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent issu du gouvernement central.
Ok, merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Dieudonné Nyangasa était à la technique, Kelly Nkuté à la réalisation sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Devant ces micros, Guy Maté, merci et on se retrouve la semaine prochaine.